Libre aujourd'hui à 8h41, c'est lundi avec le philosophe Luc Ferry. Bonjour Luc.
Bonjour David.
Un sujet de philosophie pour commencer, oui. Que nous offre la réélection de Vladimir Poutine. L'élection de Vladimir Poutine nous offre donc ce sujet. L'élection fait-elle de vous un démocrate? Vous avez 4 heures.
Non, parce qu'il y a deux grandes traditions de pensée de la démocratie. Il y a une tradition romantique qui est anti-pluraliste, qu'on va retrouver chez Hitler et chez Poutine. C'est l'idée que le vrai démocrate, c'est le Führer, c'est le leader, c'est celui qui incarne au sens étymologique du terme.
Vous n'avez pas des exemples plus romantiques que Poutine et
ben
Hitler?
Non, il n'y en a pas, mais dans les théories romantiques, moi j'ai beaucoup écrit là-dessus, si vous lisez Novalis par exemple, il vous expliquera que le vrai démocrate, le vrai leader démocrate, c'est celui qui incarne le peuple. C'est celui qui incarne la communauté du peuple, Gemeinschaft en allemand, pas Gesellschaft, c'est pas la société libérale. C'est la Gemeinschaft, c'est la société au sens communautariste du peuple. Et Hitler est très bien élu, Poutine est probablement bien élu, mais évidemment en tuant les opposants, en éliminant les opposants,
Je veux vous arrêter, je ne veux pas vous interrompre, mais je veux vous arrêter
je vous en prie.
Sur cette dimension et cette tradition romantique, parce que accoler le mot romantique à ces exemples de dictature peut interpeller, qui veut dire que dans l'esprit romantique, la démocratie ne passe pas nécessairement par des élections très organisées, des bulletins de vote contrôlés et des commissions électorales.
Oui, nous Français, quand on pense romantisme, on pense à Victor Hugo, on pense à Lamartine, c'est-à-dire en vérité à des républicains, des démocrates. Bon, alors que dans la tradition du romantisme allemand, américain, norvégien, enfin dans l'Europe du Nord, eh bien le romantisme, il est hyper communautariste et nationaliste et anti-révolutionnaire. Il est hostile aux Lumières, hostile à l'Aufklärung. Si vous lisez Hölderlin ou Novalis, donc les grands romantiques allemands, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont très peu connus, mais qui étaient connus à l'époque, comme Reberg par exemple, ce sont des très hostiles à la Révolution française, très hostiles aux Lumières, très nationalistes, très communautaristes.
Pourtant démocrates.
Et démocrates au sens hitlérien ou poutinien du terme.
J'arrive pas à comprendre.
Ouais, c'est-à-dire que le démos, étymologiquement, le démos, c'est le peuple. Et pour eux, le démocrate, c'est celui qui incarne le peuple, y compris en éliminant les opposants. Et pour nous, évidemment, héritiers des Lumières françaises, c'est de la République française, c'est l'inverse. Il n'y a pas de démocratie sans pluralisme. Pour nous, ça n'a pas de sens. Pour nous, Poutine n'est pas un démocrate. Hitler n'est pas un démocrate parce qu'il élimine les opposants. Donc, Poutine, évidemment, assassine les opposants ou les élimine. D'ailleurs, que ce soit des politiques ou des journalistes, il a fait assassiner aussi des journalistes. Et donc, il élimine les opposants, mais il incarne très probablement une grande partie du peuple. Peut-être pas 87%, mais il incarne probablement une partie, et notamment dans les campagnes, on est poutinien, voilà, en Russie. Et bon, c'est pas à vous que je vais apprendre que le plébiscite de Hitler, c'est à 90%, les Allemands votent pour lui.
Et ce qui est intéressant dans l'élection de Poutine et des images qu'on en voit à la télévision, c'est qu'elles ressemblent à des images démocratiques. C'est-à-dire que l'image qui tourne en boucle ce matin sur les télévisions, ça ressemble à un meeting du RPR ou du PS, c'est-à-dire le vainqueur ou le chef du parti avec que des jeunes en t-shirt avec le logo du parti derrière lui. C'est une image tout à fait occidentale et occidentalisée de la vie politique.
Parce qu'il est en effet très probablement soutenu par 80% de son peuple. Les enquêtes d'opinion qui sont faites par des instituts d'enquêtes internationaux, donc européens en particulier, qui ne sont pas du tout, évidemment, soviétiques.
Et c'est des jeunes, hein, c'est des jeunes.
C'est des jeunes, bien sûr. Mais regardez, l'exemple type de cette démocratie au sens romantique du terme, c'est Hitler. Hitler était incroyablement populaire en Allemagne. Et donc, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas... La première chose qu'élimine Hitler, d'ailleurs, Poutine fait un peu la même chose, c'est les sociaux-démocrates.
Il met le feu au Parlement allemand aussi.
Il met le feu au Reichstag, mais il élimine d'abord et avant tout les sociaux-démocrates. Les communistes, n'en parlons pas, ça va de soi. Mais ses véritables ennemis, avant les juifs et les homosexuels, c'est les sociaux-démocrates. Et donc, on a ces deux traditions, au fond, complètement opposées. Pour nous, c'est incompréhensible. On n'arrive même pas à imaginer de parler de démocratie sans qu'il y ait le pluralisme et sans qu'il y ait une opposition réelle. Là, dans l'élection de Poutine, il n'y a pas d'opposants. Ceux qui se présentent ne se présentent pas contre lui, mais à côté de lui. Et d'ailleurs, ce qui est assez comique, c'est que même les bulletins blancs risquent de vous envoyer en tôle. Si vous écrivez Navalny sur un bulletin, vous risquez de vous retrouver en tôle si on vous prend, si on le fait. Bon, c'est difficile de vous attraper, mais si on vous attrape, vous risquez la prison. Voilà. Et donc, c'est évidemment, pour nous, c'est tout sauf une démocratie. Mais c'est une tradition communautariste nationaliste. Les Russes sont très, très, très nationalistes, comme les Chinois. Et les Ukrainiens aussi, d'ailleurs. Mais ils sont extrêmement nationalistes. Et donc, pour eux, voilà, le leader, c'est celui qui incarne le peuple. Et c'est probable, en effet. Giscard avait dit, vous souvenez-vous, Poutine a une relation amicale avec son peuple. C'est vrai, c'est probablement vrai, hélas.
Alors justement, j'allais vous parler, moi, de la Boétie et du discours sur la servitude volontaire. Oui. Comment utiliser ce texte ancien pour comprendre la réalité russe d'aujourd'hui ?
L'ami de Montaigne. Bah, c'est ce qu'explique de manière incroyablement puissante et intelligente la Boétie, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, les grands leaders totalitaires sont en fait portés au pouvoir par ce que la Boétie appelle la servitude volontaire. C'est-à-dire qu'on aime se coucher, beaucoup de gens aiment se coucher devant un leader parce qu'il protège tout simplement. Vous savez, la demande de protection en démocratie, elle est très forte, il faut s'en méfier. Demande d'autorité. Très probablement aujourd'hui en France, la demande d'autorité est la demande, peut-être sur le plan des qualités du dirigeant, la plus forte qui soit. Donc demande de protection, demande d'autorité. Il y a un moment où on se dit, ben voilà, je vais me coucher devant le leader parce qu'il va nous protéger, il va avoir l'autorité. De, alors vous avez vu peut-être ces images du métro de Moscou qui sont mises en avant par des leaders d'extrême droite un peu partout en Europe en disant regardez, c'est propre chez eux, il n'y a pas d'immigrés. Voilà. Et regardez comme c'est bien tenu. Voilà. Et donc là, la servitude volontaire explique le fait que contrairement à ce qu'on croit, les leaders totalitaires sont des gens qui sont plébiscités, plèbes. Peuple, démos, démocratie, c'est le même mot. Voilà, et ça, c'est extrêmement inquiétant. C'est ça qu'il y a de plus inquiétant. Pour ça que ça inquiète les dirigeants occidentaux, parce que nos démocraties libérales, pluralistes, elles sont relativement faibles, j'allais dire molles, ce serait trop dire, mais faibles par rapport à ce nationalisme communautariste qui incarne le peuple et qui peut plus la guerre en Ukraine dure et plus les paysans de Sibérie sont pro-Poutine.
Est-ce que les Occidentaux ont fait une erreur historique en s'imaginant que la démocratie telle qu'ils la conçoivent était le débouché politique naturel de la modernisation de la Russie, et ce depuis avant 1917. Est-ce qu'ils se sont trompés ? Est-ce que au final, les Russes ont envie de la démocratie telle que nous la connaissons ? Sont-ils faits pour cela ?
Alors, il y a probablement, quand on regarde là aussi les enquêtes d'opinion un peu fines sur qui est anti-Poutine, qui est pro-Poutine en Russie, on s'aperçoit que les...
Il y a des enquêtes d'opinion là-dessus.
Oui, il y a des enquêtes d'opinion là-dessus, et puis il y a des Occidentaux qui se sont promenés en Russie, comme mon ami Emmanuel Carrère, par exemple, qui a rencontré beaucoup de monde, ou comme Anne Nivat, par exemple, et on s'aperçoit que les 20%, en gros, anti-guerre et anti-Poutine, ce sont les élites jeunes, mondialisées, éduquées, qui ont des diplômes, et qui ont envie de se fait sur la démocratie libérale et qui ont envie de vivre comme nous. Parce que là où il ne faut pas être pessimiste, c'est que nos systèmes démocratiques, ils ont quand même des avantages absolument considérables. Regardez nos enfants, vous et moi, des enfants qui ont à peu près le même âge. Est-ce que vous croyez qu'ils auraient envie, eux, de vivre dans un système totalitaire ? Pas du tout. Il y a des avantages de la démocratie libérale en termes de liberté qui sont tels qu'on finit toujours par gagner. Fukuyama avait raison. Fukuyama, les gens n'ont pas compris ce que voulait dire Fukuyama. Fukuyama voulait dire, quand il parlait de la fin de l'histoire, il ne voulait pas dire que l'histoire était terminée, il voulait dire que le modèle de la démocratie libérale était le seul compatible avec la liberté humaine. Il n'y en a pas d'autre. Il a raison. Il a tout à fait raison. Et pour nos enfants, c'est une évidence. Donc on a quand même des atouts extraordinaires. Cette liberté dont nous jouissons dans l'Europe de l'Ouest, elle est quand même extrêmement séduisante pour 20% des jeunes Russes qui ont envie de vivre, de voyager, de vivre comme nous. Donc c'est ceux-là qui sont évidemment anti-guerre et anti-Poutine.
Je vous lis un extrait, en plus de la revue de presse d'Hervé Gattegno, de l'éditorial de Philippe Gély dans Le Figaro ce matin, intitulé « Le président prisonnier du Kremlin. Rien ne semble pouvoir inquiéter cet homme à l'âme morte. Référence aux âmes mortes, j'imagine, de Gogol, si j'ai bonne mémoire. Qu'a décrit l'écrivain russe Maxime Ossipov dans nos colonnes? Sauf peut-être le vide corrosif qu'il a créé autour de lui, Vladimir Poutine se retrouve si seul que la peur de son peuple doit rivaliser avec la volupté de sa puissance. Le pouvoir isole, mais le pouvoir autoritaire emprisonne. Enchaîné au système totalitaire qu'il a mis en place et à la guerre qu'il a lancée, l'intouchable du Kremlin n'a d'autre option que la fuite en avant, avec l'espoir de vaincre cette force qui rendrait Alexei Navalny si libre au fond de son goulag sibérien.
Vous citiez tout à l'heure l'image de ces jeunes en t-shirt qui l'applaudissent. Moi, je crois qu'il y a vraisemblablement 80% du peuple russe qui le soutient. Et donc, je pense au contraire qu'il est très aimé en Russie. Et c'est plutôt ça qui m'inquiète, vous voyez. Parce que je suis profondément un démocrate, évidemment, je suis un libéral. Sur le plan politique, évidemment, pluraliste. Je pense qu'il n'y a pas de, qu'il n'y a pas de démocratie sans pluralisme et sans opposition. Mais je pense que, malheureusement, Poutine n'est pas seul. Non, je pense qu'il est très aimé par une grande partie de son peuple. Moi, je suis allé souvent en Russie. Voilà, j'ai des amis qui sont très proches de Poutine et qui l'aiment vraiment, qui l'aiment comme il y avait des gens qui adoraient Hitler. Hein, il faut pas.
Qu'est-ce que vous leur dites à ces amis?
Ben, je leur dis fais attention parce que c'est parlez-lui parce que c'est quand même extrêmement inquiétant ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je suis très très partisan d'armée.
Qu'est-ce qui chez un esprit français peut fasciner chez Poutine? On va chercher son papa, ou c'est le corollaire du pessimisme français qui fait que chez nous rien ne marche et si on avait un homme à poigne comme lui, ça irait mieux?
Non, c'est l'idée, je parlais d'autorité, de protection, mais c'est surtout, je pense, l'idée du long terme. C'est-à-dire que ce qui caractérise le gros avantage des pays dictatoriaux ou totalitaires par rapport aux démocraties, c'est qu'ils ont le long terme pour eux. Nous, on l'a pas. Nous, on est constamment, chaque jour, quand on est dans un ministère, je l'ai vécu.
Bah on a eu Macron pour 10 ans, Mitterrand pour 14 ans,
mais il peut rien faire.
Et Chirac pour 12.
Ils peuvent rien faire. Ils sont constamment empêchés de faire quoi que ce soit. Regardez, d'abord, Macron n'a pas la majorité absolue au Parlement. Et il se rabat sur des réformes sociétales. Et on est constamment empêchés. Tandis qu'un dictateur, le président chinois, il peut faire ce qu'il veut. Et il a le long terme avec lui. Et donc, je pense qu'il y a une fascination pour l'autorité, pour la protection, pour le long terme, chez ceux qui se disent, mais finalement, voilà, la dictature, ça marche mieux que la démocratie. Bon, je pense évidemment exactement l'inverse. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure.
Et vous restez amis avec vos copains pro-Poutine?
Vous savez, j'ai même des amis à la LFI. J'en ai au Front National, j'en ai un peu moins maintenant chez les LR, alors que c'est ma famille politique. Mais moi je pense qu'il faut parler avec tout le monde. Mais c'est vraiment hélas consternant de voir que des gens intelligents et des gens qui ont de la culture peuvent se retrouver dans des partis totalitaires.
Luc Ferry,
regardez Heidegger, par exemple. Heidegger est le plus grand philosophe du XXe siècle. Il était vraiment hitlérien. Vous voyez, c'est ça qui fait. Et regardez, dans les années 60, Foucault, Sartre, applaudissant à Khomeini, allons voir Khomeini à Naufle-le-Château. C'était pas des imbéciles.
Et défendant
le communisme le plus totalitaire qui soit, sans parler d'Althusser, sans parler de Derrida, etc. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que pratiquement tous les intellectuels français dans les années 50 ont été soit hitlériens, soit staliniens. Voilà. Donc, c'est ça qui est fascinant. Et il faut comprendre pourquoi.
On en
parle la prochaine fois, si vous voulez.
Mais bien sûr, oui, bien sûr. On va terminer avec un compositeur qui est né un 18 mars 1844. Il a composé pas mal de choses, mais entre autres, cette musique de scène chez Scheherazade, Nikolaï Rimsky-Korsakov. Luc Ferry, à la semaine prochaine.
Merci, mon ami.